se lever. Hosanna. Vous savez ce que ça veut dire? C'est rigolo qu'on chante des choses, mais on ne sait pas trop. Sauve, éternel, sauve. On vient de chanter un chant qui dit éternel, sauve. On le chante, mais on ne sait pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai, on a passé une journée extraordinaire le 14 juillet. On n'a pas célébré la révolution. Quoique, on a préparé une révolution. Mais une révolution, asseyez-vous, mes amis, une révolution par l'amour. Non pas par les armes, on ne va pas prendre d'assaut la Bastille. C'est déjà fait. On n'a pas été engagé à démonter toutes les pierres des bâtiments. Mais on a été engagé par un homme qui n'a pas de bras, pas de jambes, à parler de l'amour de Dieu. À finalement reconnaître que peut-être notre vie est brisée, qu'il y a plein de morceaux éparpillés, et que peut-être Dieu n'a pas répondu à notre prière. Dieu, il a prié pendant longtemps, il a dit, pour que des bras lui poussent, pour que des jambes lui poussent. Il a dit, une paire de chaussures dans son placard. Si Dieu lui donne des jambes et des pieds. Mais la chose extraordinaire, c'est que chaque petit morceau, de chaque petit morceau brisé, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des miracles. Et quand on chante Hosanna, comme on vient de le chanter, on chante, Seigneur, prends tous mes morceaux éparpillés, mes morceaux cassés. Et même si je n'ai pas reçu ce miracle, que je devienne moi un miracle pour les autres. Que je devienne moi un miracle. Et on va arrêter de regarder notre nombril. On va arrêter de se plaindre pour nos problèmes. Et même s'ils sont graves, mes amis, vous avez des problèmes graves. Vous avez le droit de vous plaindre. On a le droit de se plaindre, de dire « Seigneur, pourquoi ?» Mais sa réponse, elle vient, elle dit « Parce que je t'ai choisi toi. Parce que je t'aime. Pour que tu ailles porter cet amour au monde. » Et on le chante au sein, mais on ne sait pas. Quand finalement, Jésus est venu sur son anon à Jérusalem, on va prendre un texte tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dit? Le peuple disait, faut que je parle. Ah oui, il faut. Merci. Faudra m'acheter un truc. Hein, parce que... Ou alors, faudra prier que j'arrête de bouger. Quand Jésus, voilà, je reprends le fil. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, qu'est-ce que le peuple a chanté? Qu'est-ce que le peuple a crié? Hosanna! Sauve! Sauve! Mais c'était pas le salut spirituel qu'ils voulaient. C'était la délivrance des Romains. Et 8 jours plus tard, crucifie-le! C'est pas le bon, c'est gouré! On le rejette! On préfère qu'un condamné soit libéré, mais lui, crucifie-le finalement! Éternel, le psaume 118, 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Pendant la fête des Cannes, fête des Juifs, pendant une semaine, il répétait tous les jours ce psaume. Ô Éternel, sauve. Et le 7e jour, il répétait 7 fois ce même psaume. Ô Éternel, sauve. Est-ce que nous sommes concernés par notre pays de France? Pays qui nous accueille. Pays qui nous donne le moyen d'être là, de vivre. Et quand on regarde à quoi ressemble notre pays de France, quand on regarde ses lois, quand on regarde son peuple, est-ce que nous sommes interpellés? Et est-ce que chaque matin, en nous levant, nous pourrions prononcer cette phrase? Éternel, sauve. Éternel, sauve. Si je peux être un instrument dans tes mains, avec mes défauts, avec mes problèmes, avec mes a priori, avec mes jugements, Éternel, sauve. Éternel, sauve. L'après-midi, on avait un groupe sud-américain. Un sud-américain, je ne me trompe pas. Oui, c'était sud-américain. Et le chanteur, celui qui chantait, d'un seul coup, il s'est mis à raconter l'histoire d'un jeune homme. Et je m'y attendais. L'histoire d'un jeune homme qui vivait dans un gang. Qui vivait dans la drogue, qui vivait voilà, dans la prostitution, etc. Mais où il n'y avait pas d'argent. Et donc, sa seule solution pour boire, c'était de se mettre un caillou dans la bouche. Pour pouvoir garder un sentiment de frais. Sa nourriture, il n'y en avait pas. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce jeune homme, un jour, a rencontré sa voisine, qui n'était pas dans de meilleures conditions que lui, mais qui aimait Jésus-Christ. Et qui lui a permis, à lui, de venir à l'église. Alors comme lui, il était toujours très mal habillé. Il s'est mis derrière, au fond de la salle. La porte d'entrée était là, elle n'était pas sur le côté. Et finalement, jour après jour, il a entendu l'évangile. Et il a fini par accepter l'évangile dans son cœur. Mais après, il s'est dit, oui, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour rentrer chez moi, parler à ma famille et témoigner à ma famille? Il n'avait jamais reçu d'amour. Sa famille l'avait élevé dans la haine, dans la rancœur, dans l'amertume, dans la drogue. Et finalement, il est rentré à la maison. Le seul réflexe qu'il a eu, c'était de venir derrière sa mère, qui ne l'attendait pas, et de la serrer fort dans ses bras. Et de lui dire, « Maman, je t'aime, comme Dieu t'aime. » Et vous savez quoi? À la fin du témoignage, ses trois frères étaient là, son père était là, sa mère était là, les petits-enfants étaient là, et ils sont tous à Christ. Hosanna, éternel sauve, éternel sauve. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette compassion dans notre cœur? On dit, et je ne vais pas faire lever la main, dire que nous croyons en Dieu, n'est-ce pas? On a cette croyance. Mais vous savez quoi? Le diable aussi. Les démons aussi croient que Dieu existe. Jacques chapitre 4. Mais ils tremblent. Ils tremblent. Si on croit que Dieu existe, par contre, si nous croyons Dieu, ça change. Parce que si on croit à sa parole, on va pouvoir chanter Hosanna. Éternel sauve. Éternel change. Mais nous avons besoin de mettre notre foi en application. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sur un texte qui va vous paraître peut-être hors contexte. Mais écoutez bien. Marc 11, l'évangile de Marc, chapitre 11. Oula, il va falloir que j'accélère. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, on est dans le contexte, c'est Jésus qui a envoyé préparer ses disciples pour préparer la Pâque. Alors on n'est pas à Pâque, j'ai pas pris un coup de soleil vendredi, rassurez-vous. Et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un âne attaché par lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » À l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'âne attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. » Ils amenèrent à Jésus l'âne, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent sur les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disant « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé la veille, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là », et jette-la dans la mer, il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parce que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Peut-être vous interrogez, hein, vous dites, oulala, il reste 5 minutes et Jean-Claude, il faut qu'il nous explique tout ça. La première des choses qu'on trouve dans cet évangile, c'est que Marc met en phase l'autorité de Jésus. Et cela, il va le faire dans trois circonstances ou trois raisons. Tout d'abord au verset 10. Il dit à ses disciples d'aller chercher l'anneau dont Jésus a besoin pour entrer à Jérusalem. Et il dit, lorsqu'on vous demandera pourquoi le faites-vous, vous direz tout simplement parce que le Seigneur en a besoin. Cela suffit pour qu'aussitôt on vous laisse aller. Et qu'est-ce qu'on fait, les disciples ? Ils ne se sont pas posé la question. Mais non ! S'ils avaient les Français, moi j'imagine. Il dit, Jésus dit, allez chercher un anneau, et si on vous dit, oui mais, non, mais ça ne marchera pas, Seigneur. Non, non, nous on a un meilleur moyen, on va le piquer. Seigneur, la stratégie, nous on connaît. On est des stratèges, on a gagné beaucoup de guerres. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Ils ont dit, on y va. Et quand on leur a posé la question, pourquoi faites-vous ça ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce que Jésus a dit. Moi, ça m'interpelle, ça. Non ? Nous, on est des chrétiens, n'est-ce pas ? Et dans plein de situations, on nous demande pourquoi on fait ça. Alors, on explique par la raison, la philosophie. Et pourquoi on ne répond pas juste parce que Dieu l'a dit ? Parce que c'est la volonté de Dieu ? Ha ! Moi, ça m'a... Honnêtement, quand j'ai lu ce texte, sans se préparer ça, je me disais, mais... Et toi, Jean-Claude, est-ce que tu as cette même foi ? Est-ce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais, non pas en essayant de raisonner, de changer, de transformer, de modifier, mais de dire, parce que le Seigneur le veut, parce que le Seigneur l'a dit. Il est clair que l'autorité personnelle de Jésus, même par personne interposée, a une influence déterminante. Et que les gens qui auraient pu s'opposer à cet acte, est-ce que vous croyez que les gens, le propriétaire de l'anneau, vous croyez que lui, il était volontaire pour donner l'anneau ? Qu'il avait reçu un texto, des négociations ? Écoute, laisse-le partir, t'inquiète, tout ira bien, tu verras. Non ? Mais par l'autorité de Jésus. Les disciples, ils vont et disent, c'est Jésus qui l'a demandé. C'est Dieu qui l'a demandé. Dieu a mis en évidence l'autorité de Jésus en le ressuscitant des morts. Dans le fait que Jésus a été vu, que Jésus est remonté au ciel et qu'il reviendra. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël, la maison de Vigneux, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus qui a été crucifié. Et vous savez, je change la fin du texte, mais que nous avons crucifié. On accuse les Juifs, n'est-ce pas ? Il y a un grand débat. On accuse les Juifs d'avoir crucifié Jésus. Et les autres disent, mais non, c'est pas les Juifs, c'est les Romains. Mais qui a dit crucifie-le ? C'est les Juifs, c'est pas les Romains. Les Romains, il y a la même main, il s'est lavé les mains. Hein. Il a dit non, moi. Et souvent, on se lave les mains aussi. Hein. Oui, c'est pas moi, j'étais pas là, j'ai pas entendu, je sais pas. Mais qui est crucifié ? C'est vous, c'est moi. Ce sont nos péchés qui ont mis Jésus à la croix. Alors on peut toujours se réfugier derrière le dernier. Non, mais ça c'est Dieu qui l'a fait. Il était volontaire, mais à cause de nous. Vous voyez que celui que vous avez crucifié, il nous tombe dessus, mes amis. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Dieu l'a ressuscité, et c'est là son autorité. Les gens du village proche de Jérusalem ont donc répondu sans hésiter à l'exigence de Jésus. Il avait besoin de cet anneau pour entrer triomphalement à Jérusalem, pour être honoré et pour que son règne soit annoncé à tous. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, dit verset 10. Béni ? Est-ce que nous accueillons Jésus de la même façon ? Il est rentré dans notre vie. Le jour où on l'accepte, le jour où finalement on plie, le jour où on dit viens dans ma vie, le jour où on prend la poignée de porte et on dit allez rentre. Voici, je me tiens à la porte. Hein. C'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie. Il n'est pas rentré en forçant la porte avec le GIGN. Hein. Il n'a rien défoncé. Il a juste, hey, Jean-Claude, j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Et maintenant, je veux être avec toi. C'est triomphal. C'est une rentrée triomphale. Non. Mais c'est Seigneur, quand je le laisse. Même l'argent, vous voyez, quand on le donne avec joie. Oh là, si je perds la moitié du message, ça va être compliqué. Avec joie. Parce que le Seigneur nous donne cette joie. Jésus a besoin de notre foi qui vient par Dieu. Ayez foi en Dieu, dit le verset 22. Ayez foi. Vous savez, c'est pas forcément un péché de manquer de foi. Ce qui est un péché, c'est de rester dans notre manque de foi. On manquait, ça arrive, c'est même arrivé aux disciples. Vous vous rappelez ? En plein d'occasions. Seigneur, on coule ! Eh oh, tu dors, mais c'est pas le moment, réveille-toi, on coule ! Eh oh ! Il y en a un peu comme ça des fois, hein ? Tout va mal, eh Seigneur, oh ! Eh oh, il y a quelqu'un ? Non, vous n'avez pas l'impression ? Ah ben ça a coupé, il n'y a pas de réseau. Mais le 4G, il marche toujours avec Jésus. Hein, en permanence. Il n'est jamais saturé. Et Seigneur, il dit, hey, keep cool. Don't worry, be happy, hein, comme disait un chanteur. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Hein. Je m'occupe. Ah, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Béni soit celui qui va annoncer le salut. Comment croiront-ils, dira Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Nous sommes des prédicateurs en puissance, mes amis. Peut-être vous, Dieu vous a pas donné le don de monter sur l'estrade et de faire un discours comme je fais ce matin. Peut-être. Mais en tout cas, Dieu vous a donné le moyen d'annoncer la parole de Dieu, jour après jour, par la transformation de votre vie. Parce que Dieu vous a sauvé. Parce que quelqu'un a prié, Éternel, sauve. Sauve au Cameroun, sauve au Tchad, sauve à Haïti, sauve en Martinique, sauve en Guadeloupe, sauve dans tous ces pays-là. Sauve en Auvergne. Sauve Armosa, Moza, ce petit bled là, 800 habitants, mais c'est même pas sur la carte. Tu vas même pas trouver la route d'Enval. Alors là, le Seigneur est venu nous chercher parce que quelqu'un a prié, Hosanna. Quand les hommes et des femmes se laissent convaincre par Jésus-Christ et être interpellés par la personne du Christ, alors leur foi agissante. Leur foi agissante, pas intellectuelle, se fait connaître au monde et sont prêts à faire connaître celui qu'ils aiment. C'est pas notre cas ? C'est pas notre dire ? Oh, on est timide, hein ? Ah, moi, j'ai pas le don d'évangéliste, alors moi, reste tranquille. Mais on a reçu cet appel. La deuxième circonstance, le figuier stérile. Jésus, il passe ? Il dit, il n'y aura plus de fruits sur cet arbre parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'est marqué dans le texte, c'était même pas la saison des fruits. C'est pas bien. Voilà, Jésus. C'est pas bien. Et regardez Pierre, le lendemain, il fait, hé, Jésus, t'as vu ? Il est sec, le machin. Et Pierre, une fois encore, hein, tout arrogant qu'il est, tout grand patron qu'il est, il se dit, mince, mais c'est vrai. C'est donc vrai. Combien de fois on doute ? Combien de fois on doute que Dieu soit capable de faire des choses ? Combien de fois on doute que l'Éternel est capable de sauver. Qui aurait parié 1 euro sur votre salut? Personne. En tout cas, moi, j'en connais pas qui pariait un salut. En tout cas, moi, le patron du bistrot que j'entretenais, lui, il priait pour que je me convertisse pas. Parce qu'il dit, sinon, je vais perdre un client. Et un gros client. Parce qu'il m'amène en plus des potes à lui. Mais il y a une jeune fille, deux jeunes filles, qui, quand elles m'ont vu, elles ont dit, on va prier pour toi. Et elles ont prié avec insistance. Et puis d'autres ont prié, parce qu'elles ont communiqué le nom, et parce qu'une multiplication de gens se sont mis à prier pour Jean-Claude, pour Pierre, pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à notre porte et qu'il dise « Hé, c'est toi qui l'as crucifié, faudrait réagir. Ayez foi en Dieu, chassez l'incrédulité. » Chassez l'incrédulité. Les disciples, Matthieu 21-20, il dit que quand les disciples ont vu le résultat du figuier, ils s'en étonnèrent. Moi, je trouve que on est tellement étonné quand on voit Dieu agir. On est tellement étonné. Il faut chasser l'incrédulité. Il faut enlever ça de notre cœur. Croyez que ce que Dieu dit, il le fait. Et Jésus ajoute, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais alors mes amis, et on commence à faire des plans, on dit, alors moi je vais demander au Seigneur. Il dit qu'il a prié jour après jour. Seigneur, donne-moi des bras. Seigneur, donne-moi des jambes. Et il a appliqué le verset, il a dit, tout ce que vous demanderez mon nom, je vous le donnerai. Réponse. Ah, c'est embêtant. Hein. Pourquoi Dieu ne lui a pas donné de jambes? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Dieu lui a donné la joie. C'est que ce morceau cassé, vous imaginez être dans sa situation? Il nous a raconté, on s'est moqué de lui à l'école. On s'est moqué de lui dans la vie. Il a un master, ce gars-là. Il a été étudiant, comme vous et moi. Il a appris des choses, il a été à l'école. Et Dieu a fait de lui un prédicateur dans le monde. Des fois, Dieu ne nous répond pas parce qu'il a une meilleure réponse. Parce qu'il a quelque chose de meilleur que ce qu'on lui demande. Et quand on comprend ça, alors mes amis, on devient des prédicateurs. Cette foi en Dieu, et plus précisément en sa parole, doit être employée dans un but précis, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que ta volonté se fasse. Combien de fois on change ce texte? Seigneur, que ma volonté se fasse. Bénis ma volonté. Bénis mon désir. Le chapitre 40 d'Ésaïe, au verset 3, nous dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les hauts lieux une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. » Préparez au Seigneur un peuple bien disposé. Je m'arrêterai juste un instant sur le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-la dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Vous imaginez le changement de géographie? Ça serait extraordinaire, non? Ma femme, elle changerait toutes les montagnes en mer. Il n'y aurait plus de montagne, hein, chérie? Moi, je mettrais des montagnes un peu partout. Moi, je mets des petits brins de mer parce que ma femme, ça lui fait plaisir. Quand même. Il ne parle pas des montagnes physiques. Il parle de cette montagne de péché. Cette montagne de péché qui met des barrières entre nous et Dieu. Qui met des barrières entre deux frères, deux sœurs. Qui divise les églises. Qui blasphème le nom de l'Évangile. Éternel sauve, Éternel délivre, Éternel répare, Éternel construit. Le Seigneur a une façon, il ne veut pas nous enlever de cette terre. Mais comme le figuier desséché, il veut faire disparaître de notre vie tout formalisme, toute hypocrisie, toute apparence, tout pharisianisme. La troisième circonstance, nous trouvons Jésus dans le temple, c'est verset 15 à 17, nous trouvons dans le temple des hommes et des femmes qui ont fait de cette maison une maison de vente. Et Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, a dit Jésus dans Jean 12. Jésus a fait de notre demeure, de notre corps, un temple. C'est pas le temple ici. Et il a dit qu'il voulait que nous soyons un temple de prière, une maison de prière. Quelqu'un qui est en ligne, en phase, en permanence avec Dieu. C'est dans tout être régénéré, devenu un temple, que le Saint-Esprit peut alors nous aider à accomplir sa volonté. Parce que nous sommes sauvés. Et vous savez, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, souvent il dit « Donc, puisque vous me dites que... » Et il fait la même chose dans Éphésiens. « Donc, voilà ce que vous êtes devenus. » Dans le temple de Jérusalem, les hommes servaient leurs propres intérêts au lieu de servir les intérêts de Dieu. C'est pourquoi Jésus les a chassés sans ménagement. La foi en Dieu implique en premier d'éliminer tout ce qui est mauvais. Lorsque vous êtes debout en faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez comme votre Père vous a pardonné. Mes amis, je vais arrêter là parce qu'il est déjà midi et quart. Mais Hosanna, Éternel, sauve. Éternel, sauve. Deuxième chose qu'il dit dans le texte, ayez foi en Dieu. Notre foi, elle est parfois comme ce grain de sénevé, toute petite. Mais qu'est-ce qui l'empêche de grandir? Qu'est-ce qui l'empêche de grandir, notre foi? Nous. Parce qu'on veut maîtriser, parce qu'on veut contrôler, parce que ce n'est pas raisonnable. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Je chante mal, mais j'aime beaucoup la chanson. Et il y a une chanson qui a été écrite il y a environ une quarantaine d'années par un des chanteurs d'un groupe qui était en séparation. Les deux chanteurs s'étaient fâchés. Et les deux chanteurs n'étaient pas chrétiens. Mais ils vivaient dans un environnement chrétien. Alors celui qui a écrit le texte, il l'a donné à un pasteur, il a dit « Regarde, est-ce que ça tient debout le texte là ?» Et je ne sais pas quelle partie a rajouté le pasteur, mais en tout cas, ce chant, il est magnifique et j'aimerais juste vous le donner presque en guise de conclusion. C'est que sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur notre manque de foi, Jésus est venu comme un pont se jeter sur le trouble. Il est venu comme un pont jeté sur le trouble. Un pont enjambant le trouble. Lorsque tu seras las, mélancolique, lorsque les larmes viendront à tes yeux, Jésus dit, je les sécherai toutes. Je serai près de toi quand les heures deviendront rudes, que les amis demeureront simplement introuvables. Tel un pont enjambant l'eau trouble, je me sacrifierai. Tel un pont enjambant l'eau trouble, je serai un soutien. Lorsque les ténèbres apparaîtront, que les souffrances seront omniprésentes, tel un pont enjambant le trouble, je me sacrifierai. Tel un pont enjambant le trouble, je serai un soutien. L'heure est venue pour toi de briller, tous tes rêves vont s'accomplir. Vois comme ils brillent. Mais si tu as besoin d'un ami, je navigue juste derrière toi, dit le texte. Tel un pont enjambant le trouble, j'apaiserai ton esprit. Tel un pont enjambant l'eau trouble, j'apaiserai ton esprit. Jésus, il est venu parce que nous avions des problèmes, parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, parce que nos problèmes nous dépassent, parce que nous avons plein de questions. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, hein, a dit Blaise Pascal au sommet du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si c'était les 664 mètres du Puy-de-Dôme qui l'avaient inspiré, mais peut-être aujourd'hui, on a besoin de ce pont. Peut-être, comme Nick Vujicic, on a besoin de s'arrêter, prier, Seigneur, donne-moi des bras, des jambes. Mais Seigneur, fais de moi un miracle pour les autres. Permets que ma vie, telle qu'elle soit, où que je sois, puisse faire briller ta lumière. Pour que chaque morceau de ma vie, puisse toucher d'autres et qu'ils aillent au ciel. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, peut-être ce matin, nous avons du mal avec ce texte. Tu vois, on chante Hosanna et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais Seigneur, ton peuple à Vigneux veut dire éternel sauve. Éternel sauve. Mais avant de sauver les autres, Seigneur, sauve-nous nous-mêmes. Si nous n'avons pas cette assurance que nous donne l'Écriture, qui est écrite dans 1 Jean, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que tu nous as sauvés. Nous avons cette assurance que tu as pris nos péchés à la croix. Nous avons cette assurance que tu es avec nous chaque jour. Nous avons cette assurance que nous passerons l'éternité avec toi. Mais peut-être ce matin, dans cette salle, Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu donnes ta parole chaque dimanche. Seigneur, ceux qui apportent la parole le dimanche à Vigneux veulent le faire avec abnégation, avec droiture, avec sagesse. Mais c'est toi qui parles. Et c'est ton esprit qui convainc. Seigneur, si ce matin il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas cette assurance, quelqu'un peut-être qui se dit, mais Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. Seigneur, pourtant, ce n'est pas quelque chose de grave que je te demande. C'est quelque chose pour ma vie personnelle, pour ma vie de couple, pour mon travail, pour mes relations, pour mon mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et si ce matin, il y a des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui n'ont pas l'assurance, qui n'ont jamais vu ce pont jeté sur l'eau trouble, qui n'ont pas compris encore que Jésus est celui qui a payé pour eux, et que ce matin, ils se disent, mais il est temps de prendre ce Jésus dans ma vie, de l'accepter, et de pouvoir devenir cette personne par laquelle notre pays de France, ce pays dans lequel je vis, qu'il puisse être touché par l'Évangile. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin qui aimerait juste, premièrement, dire oui au Seigneur Jésus ? Quelqu'un qui accepterait l'invitation que Jésus devienne son Seigneur, pas celui qui le rachète simplement, et qui ne nous demandera jamais l'argent du rachat. Dieu ne nous fait pas crédit, il nous fait un don. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait juste lever la main et dire, Jean-Claude, tout simplement, tu vois, tu me vois souvent, mais je n'ai jamais fait ce pas. J'aimerais vraiment venir à Jésus-Christ. J'aimerais juste vivre avec lui toute ma vie, avoir ses sécurités dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait le faire ? Oui ? Oui ? Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous bénisse. Ce que je peux vous demander, juste de vous lever. Ce n'est pas un pas facile, mais c'est quand on vient à Jésus-Christ, Dieu nous demande de nous lever. Est-ce qu'on peut le faire ? Voilà. Et puis, peut-être, on ne regarde pas, c'est entre eux et Dieu. On va les voir tout à l'heure. Mais si peut-être, parmi nous, il y a des gens qui se disent, mais ma vie à moi, c'est un débris. Mais Dieu ne répond pas à mes prières. C'est incroyable, ça fait tant d'années que je lui prie. J'en peux plus, je suis au bout. Et vous dites ce matin, ben j'ai compris peut-être par la prédication ce matin, que Dieu veut faire de moi, de chaque morceau de ma vie, chaque morceau brisé, un miracle pour les autres. Et si c'est votre cas, là tout simplement, là aussi, je vous demandais cet effort, c'est de vous lever. Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas se le dire, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie et rester assis. Ce n'est pas possible. Arrête, j'aurai quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un qui s'est levé. Oui, Seigneur Jésus, tu vois, ta parole touche. Ta parole est puissante. Ta parole est vraie. Et on le voit dimanche après dimanche, jour après jour. Parce que c'est ton église. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas celle de Pierre, ce n'est pas celle de personne ici. C'est la tienne. Et Seigneur, tu l'as bâti jour après jour, dimanche après dimanche, heure après heure. Je veux te prier pour ces amis, déjà qui, ce matin, ont baissé pavillon, ont accepté que tu deviennes leur sauveur et leur Seigneur. On veut te glorifier pour ça. On veut te glorifier pour ça parce que tu as ancré dans leur cœur cette assurance que leurs péchés sont pardonnés, que leurs péchés sont oubliés, que tu les as jetés loin dans la mer et que toi, tu es venu ce pont jeté sur cette mer pour rentrer dans leur vie. Et puis tu vois, cette personne qui s'est levée parce qu'elle veut que chaque morceau brisé de sa vie te serve. Seigneur, je veux prier avec instance que tu l'utilises à ta gloire, que tu te révèles, que lorsqu'il sera découragé, il se souvienne de ce 16 juillet où elle s'est levée devant toi, comme le prophète Ésaïe en disant « Envoie-moi, Seigneur. » Permet que sa vie, son entourage soit touché par son engagement, mais par ta présence dans la vie. Je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors mes amis, on peut glorifier Dieu pour ses amis. On va rester debout. Il ne faut pas avoir honte, vous savez.